spéciale à suivre vendredi à 18h15. France Inter, en direct de Corse, avec Oscaro.com, numéro 1 des pièces auto, neuves et d'origine sur Internet. France Inter présente Singe Sabour de Atik Raimi en DVD et Blu-ray. En Afghanistan, une jeune femme veille son mari dans le coma. Elle lui confie ses peurs, ses désirs et ses secrets. Ses confessions lui permettent peu à peu de s'affranchir et de se libérer. Singe Sabour, un DVD et Blu-ray France Inter.
France Inter,
la voix est libre.
Daniel Mermel, là-bas, si j'y suis, son répondeur, c'est maintenant sur Inter.
Il y a quelque temps de cela, Monsieur Mermet, vous vous vantiez que votre émission était de plus en plus écoutée. Méfiez-vous, Monsieur Mermet, elle est beaucoup plus écoutée que vous ne croyez. Beaucoup plus écoutée.
J'appelle rapport à l'émission d'aujourd'hui et je voulais saluer grandement la musique que vous avez passée. C'est un peu rare que l'auditeur s'exprime là-dessus. Eh bien, dès que j'ai entendu le début du reportage, j'ai tout de suite pensé à la chanson de Medine Guantanamo, et c'est exactement celle que vous avez diffusée. Cette chanson, je ne suis pas sûr qu'elle soit déjà passée à la radio à un autre moment, donc c'est très bien que vous l'ayez fait, et un grand bravo à vous pour toutes ces émissions.
Oui, bonjour. Suite à votre émission d'aujourd'hui, là, mardi, il n'y a pas les bons Américains contre les mauvais islamistes, et puis il n'y a pas les bons islamistes, comme vous pensez le croire, contre les salauds Américains. Vous seriez plus crédible, Monsieur Mermet, si vous parliez un peu de tout. Mais bon, comme d'habitude, ça va tout le temps dans le même sens. Voilà. Parce que il a couru après des gamines dans une cour école pour leur mettre une balle dans la tête. Si on s'en était occupé avant de Mera, j'aurais préféré qu'ils soient enfermés à Guantanamo, Mera. Hein, il n'y aurait pas eu 9 morts en plus, voilà. Allez, salut.
Alors que depuis le début du capitalisme, le corps du prisonnier est un objet raturé, qui doit être invisible, Guantanamo inaugure une nouvelle exhibition, non du corps mais de son image, plus précisément de l'image de la négation du corps. La technique d'enfermement n'a plus pour but de séparer le corps du prisonnier du corps social. Il s'agit maintenant de le séparer d'avec lui-même, pour lui confisquer son intimité. Ici, le corps est capturé, non pas pour être brisé, comme dans l'Ancien Régime, ou pour être réformé, discipliné, comme dans la première modernité, mais afin d'être utilisé pour fabriquer des images. Ainsi apparaît un détenu qui n'a plus d'yeux, plus d'oreilles, plus de peau, plus de voix. Quelques extraits du livre de Jean-Claude Paille, L'emprise de l'image de Guantanamo à Tarnac. Sans doute un des livres les plus importants de notre époque.
J'étais en train d'écouter l'émission du jour sur Guantanamo. Depuis que j'ai pris connaissance de la stratégie du choc de Naomi Klein il y a quelques années, je ne peux pas empêcher de voir les choses à travers cette grille de lecture-là. Et à chaque fois, il y a des laboratoires quand même dans les avancées du capitalisme et de ses différents avatars, donc en l'occurrence le néolibéralisme. Dernièrement, on a eu la Grèce comme laboratoire de ce qu'attend l'Europe. Enfin bon, on peut aussi se poser la question si ce n'est pas un laboratoire de ce qui attend tous ceux qui oseraient s'opposer au néolibéralisme qui n'est ni plus ni moins finalement que la poursuite de l'impérialisme américain. Voilà, c'est juste la petite réflexion que je me fais en vous écoutant. Allez, ciao, ciao.
Merci pour tous ces messages, cher AMG. Merci, merci, merci. Aujourd'hui, une émission spéciale, une situation spéciale. Vous le savez, Mandela Madiba est très proche de la mort et on attend d'un instant à l'autre l'annonce officielle de son décès, et il est donc possible que notre émission soit interrompue par nos collègues de l'information. On avait prévu aujourd'hui une émission sur les drones, la théorie des drones, avec Grégoire Chamaillou. Eh bien, on programmera cette émission demain. Et aujourd'hui, on va revenir sur une des émissions que vous avez le plus approuvée au cours de cette saison, pour la raison que c'est vous-même qui avez fait le boulot. C'est un florilège des messages que vous avez laissés sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, ces derniers temps. Les auditeurs poètes, ça avait bien marché, ça vous avait amusé, ça vous avait ému, et donc on va retrouver cette émission aujourd'hui. Évidemment, on partage l'émotion générale au sujet de Mandela. Ça nous rappelle des voyages et des reportages en Afrique du Sud, et puis des moments de nos vies à tous, y compris de nos vies militantes. C'est vrai que contrairement à beaucoup d'autres héros de la lutte anticoloniale, Mandela n'est pas devenu un dictateur ou un autocrate après la victoire. C'est vrai aussi qu'il fait l'objet d'une adoration consensuelle, une sanctification planétaire de son vivant dans cette figure du prophète visionnaire qui rejette la violence. Mais il faut espérer qu'on n'oubliera pas d'évoquer celui qui a eu recours au terrorisme, qui a été traité de terroriste par beaucoup, beaucoup de monde à travers le monde, y compris de hautes personnalités, qu'il fut l'allié des communistes, les communistes de l'Union soviétique, c'est-à-dire celle du Goulag, qu'il fut aussi un révolutionnaire déterminé. Il est possible qu'on ne n'évoquera pas trop non plus cette part de sa vie, de la vie de celui qui disait « c'est toujours l'oppresseur et non l'opprimé qui détermine la forme de la lutte. Si l'oppresseur utilise la violence, l'opprimé n'a pas d'autre choix que de répondre par la violence. » On mettra ce texte d'Alain Grèche, qui date de juillet 2010, dans Le Monde diplomatique. On le mettra sur là-bas.org, sur notre site là-bas.org, un texte intitulé « L'Évangile selon Mandela ». Voilà, les poètes de là-bas, c'est-à-dire vous. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale, au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous. Dans quelques mois, Amazon ouvrira sa 4e plateforme logistique française près de Douai. Les libraires indépendants du Nord-Pas-de-Calais s'inquiètent de voir arriver cette entreprise qui menace leur activité. Vendredi 28 juin à 19h30, à la Maison régionale de l'environnement et des solidarités, à Lille, l'association Libraire organise une rencontre débat sur le thème « L'arrivée d'Amazon est-elle une réelle chance pour notre région ?» Le journaliste Jean-Baptiste Mallet, auteur de « En Amazonie, infiltré dans le meilleur des mondes », nous parlera des conditions de travail au sein d'Amazon, de l'attitude du groupe américain vis-à-vis du fisc français et des subventions que peut toucher le groupe quand il s'implante dans un territoire. Il échangera avec Myriam Coe, vice-présidente du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais. Venez nombreux, à bientôt.
Lorsque j'entends Barack Obama dire « il faut fermer Guantanamo », j'ai l'impression de m'entendre moi-même lorsque je dis « il faut vraiment que j'arrête de fumer ». Bon, ceci étant dit, je vous laisse, il faut que je file au tabac avant que ça ferme.
Transparence et fraude fiscale font du pédalo. Transparence, c'est tombe à l'eau. Qu'est-ce qui reste? Allez, c'est facile. Et fraude fiscale?
Excusez-moi, bonjour.
Ah, il est 15h03. C'est l'heure de mon émission préférée. Ah, mais je suis en retard. Je suis resté à l'heure d'hiver. Ah, si j'avais écouté les bons conseils de France Inter, j'aurais changé de montre. Et je n'aurais pas raté là-bas si j'y suis.
Ah bah ça tourne beaucoup mieux sans la moto, hein. Une intro au piano de Hank, un coup de batterie d'Arc Blackie. Le groupe des frères Jones, c'est quand même autre chose. Something else, qui serait l'album de Cannonball Adderley. C'est la trompette de Mike. Bah ouais. Merci, bye bye.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis. Les oreilles prennent la parole. Spécial répondeur.
01 56 40 37 37. Combien de fois, Daniel, as-tu prononcé ce numéro ? À tel point que maintenant, tu utilises un ton lyrique, un peu à la De Gaulle. 01 56 40 37 37.
37 au 01 56 40 37. Ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37 37. 01 56 40 37 37 37. Réclame. Au 01 56 40 36 36. 37 37.
Le répondeur. Pour certains, c'est un défouloir, pour beaucoup, un exutoire. D'autres s'en font un promontoire pour leur petit égo malingre. 2 minutes de notoriété où ma propre médiocrité est oubliée. Enfin, j'existe, je communique. J'ai dit Nick, c'était maladroit. Une verge pour me faire battre. Au grand bal des Nickedouilles, la plus belle des andouilles, c'est moi.
Voilà. Ça a crâné. À force de faire le con sur le répondeur, ça a cramé, j'ai pas surveillé, ça a cramé. Voilà, maintenant j'ai bouffé du truc cramé. Putain, mais c'est chiant, hein. Faire le con, là, ça t'apprendra à faire le con. Merde.
Il y en a qui font ça la nuit, il y en a qui trouvent que c'est mieux l'après-midi, il y en a qui font ça en montant sur la table, d'autres qui aiment les trains de nuit, d'autres qui font ça en public, debout dans la rue ou même dans les manifs, d'autres c'est dans les églises. Bref, chacun a sa préférence pour laisser un message dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37. Ça dure depuis combien de temps, cette petite histoire ? Eh bien, on a calculé, ça dure depuis 20 ans. 20 ans multipliés par 220 émissions par an, ça fait 4400. Si on multiplie par, disons, 8 à 10 messages par jour, ça fait entre 40 000 et 45 000 messages qu'on vous a mis entre les oreilles au cours de ces années, au cours de ces 20 dernières années. Ça, c'est ce qu'on a diffusé. Mais il y a ce qu'on a reçu. On en reçoit, disons, une moyenne de 50 par jour. C'est-à-dire, si on refait le calcul, ça fait entre 200 000 et 250 000 messages que nous avons reçu de votre part. Tout ça, c'est pour que vous puissiez mesurer le boulot qu'on a eu pour préparer l'émission d'aujourd'hui, à commencer par la première question qu'on s'est posée. Que choisir parmi ces milliers de messages ? Il y a les méchants, les gentils, les politiques, les énervés, les révoltés, les délaissés, les embaumés, les éclatés, les murmurés. Eh bien, on a choisi les poètes. Ouais, les poètes du répondeur, les lyriques, les coquins, les éblouissants, les incorrigibles, les poètes et les poétesses. Dans ce monde de brutes, on s'est dit, ça manque furieusement de poésie. Ça ne veut pas dire qu'il faut régler vos oreilles sur la position guimauve ou sur la position comédien chiant, ni sur la position merveilleux, passionnant, non. Faites comme l'éléphant qui est dans le bureau de là-bas si j'y suis. Laissez-vous bercer en dégustant quelques fraises des bois.
Je pense à Victor Hugo, oui. C'est extraordinaire ce texte. C'est extraordinaire qu'un texte aussi simple soit devenu aussi célèbre, et parce que c'est en plus c'est le plus beau. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. C'est beau ça quand même. Et alors, il n'y a que 3 strophes, c'est... C'est pas compliqué, quoi. Bon, je vais pas en parler maintenant, mais juste... parce que je pourrais en parler des heures de ce texte. Et ce qui est fantastique là-dedans, c'est qu'il essaie de reconstituer dans l'espace ce qui se passe dans le temps. Et au bout du voyage, eh bien, il y a un tombeau. Et ça, c'est terrible, non ? Mais c'est tellement beau, la fin. La dernière strophe, toute la dernière strophe, c'est une splendeur. Parce que c'est de la musique, vraiment, c'est... Je sais pas comment il a trouvé des mots aussi simples, aussi justes et aussi beaux, quoi. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe. Enfin, il dit ça, c'est de la prétérition, en fait. Il dit qu'il ne va pas les regarder, justement, il les voit. En disant qu'il ne les regarde pas, ça veut dire qu'il les voit. Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouvert et de bruyère en fleurs. Mais ça finit sur le mot fleur quand même. C'est quelque chose de... On a rarement atteint un tel sommet, me semble-t-il, de mon modeste point de vue, dans la littérature. Il faut que j'aille acheter ce cahier, putain. Il faut que j'aille. Allez, à plus.
Aujourd'hui, j'ai 21 ans. Un an de plus, un an de moins. À l'âge où l'on aime se croire adulte, mais où l'on n'est encore qu'adolescent, je m'interroge sur ce monde que j'apprends à connaître. Depuis quelques années, et à mesure que je grandis, L'insouciant en moi est rattrapé par la réalité carnassière. La fraîche douceur des matins est trop vite avalée par l'activité insensée de l'homme. Quand j'entends ce qu'il se passe de par le monde, je ne sais plus très bien si je dois être effrayé, attristé, révolté, ou bien chacun de par les autres. Une France qui soutient une révolution mais refuse d'accueillir ces hommes-là sur son sol et dont le président s'acharne à asservir les masses à un système puant où le fric est d'ores et déjà Dieu tout-puissant. L'Afrique que l'on maintient dans la misère pour mieux la piller et la violer, les États-Unis se croyant autant que nous civilisés et qui ce soir exécutent un homme sûrement par principe, Israël qui ghettoise Gaza afin de mieux pouvoir euthanasier ce peuple qui l'aura rendu fou dangereux de ressentiment et la communauté internationale qui laisse faire paralysée par le lobbyisme celui-là même qui bloque l'accès des plus pauvres aux médicaments. La liste est loin d'être exhaustive. On verse à une crapule des millions au nom du préjudice moral, tandis que les accusés d'outreau se contentent d'une cellule psychologique. Et pendant qu'un ancien président échappe à la justice en jouant les séniles, à Paris, on pleure sous deux tours en carton à propos d'un 11 septembre, en oubliant cet autre où Pinochet aidait des Américains poignardés à la liberté au Chili. Nous sommes tous des Américains. Pauvres idiots. Même s'il y a encore du boulot, nous sommes tous des humains. J'ai souvent entendu dire les générations antérieures à la mienne, quel monde laisserons-nous à nos enfants? Pour ce qui est de moi, on m'a laissé un monde qui fait peur et qui fait mal. Puis-je lutter jusqu'au bout pour en laisser un moins pire au mien, où l'orange rougi du soir ne le serait pas par le sang, mais par l'espoir. Aujourd'hui, j'ai 21 ans et j'ai mal à mon humanité.
Regarde pas les affiches, fais pas gaffe aux signaux, mets bien tes mains sur tes oreilles quand t'entends rire les narvalos sauvagement. Ceux qui portent leurs membres à bout de bras et qui disent qu'un cul ça s'attrape ou ça n'est pas. De quoi t'as peur? Alors dis-leur que ton machin est contrarié, que parfois quand une fille te parle tu sens tes billes se rétracter. Depuis que cartonne au box-office la grande idée selon laquelle la compassion s'est dépassée. Dis-leur que tu te sens seul et que tu sais plus quoi faire pour trouver un peu de chaleur humaine. Aller au bois pour que quelqu'un accepte enfin de toucher ton zob, tripoter la lycéenne, porter des robes, te trémousser en talons hauts comme un gogo, puis arpenter les ruelles sombres en secouant ta clochette. C'est un peu à cause de tout ça si tous les soirs c'est la même histoire. Métro, apéro, l'exo, clope et films porno à l'ancienne, sur lesquels tu t'entraînes rageusement. Même si ça fait longtemps que ça t'amuse plus vraiment. Mais il faut pas que tu désespères, perds pas espoir. Promis juré qu'on la vivra notre putain de belle histoire. Ce sera plus des mensonges, quelque chose de grand. Qui sauve la vie, qui trompe la mort, qui déglingue enfin le blizzard. Imagine-toi t'es là, en train de te reprendre un verre au bar. Quand tout à coup tu croises un regard qui te perd fort de part en part. Imagine-toi t'es là, ça te tombe dessus sans crier gare. Un truc pendant, un truc dément qui redonne la foi. Offre-moi dès ce soir ta peau brunée, tes lèvres mauves, tes seins terrains, tes cheveux noirs, et qu'on se noie dans les nuits fauves. En échange de tout ça, je t'offre ce dont je dispose, mon corps, mon âme, prends tout tout de suite, et qu'on se noie dans les nuits fauves.
Que le soir au soleil couchant, on se fasse des serments, je voudrais partager tes nuits.
Salut. C'était un pauvre pêcheur, éventuellement poète. C'était Georges-Philippe Taladiard. C'était le poète hoquet. Okay. C'était Gérard. C'était le poussif, c'était le poète sur la brèche. Salut. Jean-Jean le rimailleur, le gars qui rimaille à toute heure.
Salut.
Cette chose ronde qui m'obsède, chaque seconde c'est ton cul. Que le bon Dieu me vienne en aide, si un jour je n'y pense plus. Joyeux Noël, Nicole. Salut. L'aveugle. Et quand il souleva la jupe, sa main trouva un vide dressé, canular ou marché de dupes, la belle était un Écossais. Salut. Le chaud lapin. Le curé est un chaud lapin. Transcendé par le son des cloches, pour faire rire le sacristain, il vide entièrement ses poches et dépose sur une chaise une boîte de préservatifs, la photo d'une Thaïlandaise massant le souverain pontife, une illustration par Dubout d'une chanson de salle de garde, un court extrait, pas le plus mou, de Justine du Marquis de Sade, l'invitation pour le soir même à une partouze œcuménique chez l'archevêque d'Angoulême, qui n'est pas le dernier des lubriques, enfin, une carte de visite de la sémillante Mireille, le remerciant pour la cuite phénoménale de la veille. Sachant le mariage programmé de la fille de l'évêque de Honfleur, le sacristain, attentionné, met en garde son confesseur. éviter de mettre mon père la main au cul de la mariée et de l'inviter au presbytère pour tirer un petit coup vite fait. « Cher ami, répliqua le prêtre, votre conseil est malvenu. Je vous suggère de le mettre là où la morale ne va plus. » Dieu ne créa pas l'érection pour taper sur des vieilles gamelles ou pour montrer la direction de Saint-Jacques de Compostelle. Alors baisons, baisons, baisons dans les couvents, dans les hospices, bonnes sœurs, curés, forniquons, que le vin remplisse nos calices. Et souvenons-nous que le pape, dans sa grande, grande sagesse, n'a trouvé que cette soupape pour venir à bout de son stress, n'a trouvé que cette soupape pour venir à bout de son stress. C'était Jean-Marcel Lourdingue, salut.
Quand est-ce que cette émission neuve va cesser ?
1, 2, 1, 2, ceci est un essai. 1, 2. C'est vraiment... Ça vous dégoûte du socialisme, votre émission. Vraiment, bonjour chez vous.
Je suis bien chez le docteur Fontaine. Oh, je comprends pas.
Il est 3h20 du matin et je n'arrive pas à dormir. Et c'est à cause de toi, Daniel. C'est à cause de cette émission sur la guerre d'Algérie. Et pourtant, ce n'est pas à toi, Daniel, ce n'est pas aux autres AMG que j'ai envie de parler, c'est à Jean-François. Jean-François, je ne sais même pas si tu es encore en vie. Après 50 ans, après tout, on peut se poser la question. Moi, j'ai 70 ans, tu en avais 5 ou 6 de plus que moi. Donc je ne sais pas si tu es encore en vie, mais si tu es en vie, si tu écoutes parfois, là-bas si j'y suis, qui sait, à l'autre bout de la France, est-ce que tu te souviens, est-ce que tu te souviens de ce départ sur le quai de la gare pour l'Algérie justement? Est-ce que tu te souviens de ce que tu étais? Est-ce que tu te souviens de ce jeune homme joyeux, toujours, toujours taquinant, plaisantant, qui est parti un beau matin, triste matin, et qui n'est jamais revenu. Bon, c'est pas une histoire de veuve de guerre que je vous raconte. Hein. Oui, il est revenu 18 mois plus tard, mais pour moi, il n'est jamais revenu. Et le Jean-François, si joyeux, si drôle, si gai, si beau, je ne l'ai pas retrouvé. Et donc, je lui ai dit adieu. Je lui ai donné rendez-vous après que son service militaire ait été fini. J'ai quand même attendu ça. Je lui ai donné rendez-vous au Trois Lapins, parce que c'était là-bas que je donnais tous mes rendez-vous. Et puis je lui ai dit, bah, c'est fini. Voilà, parce que moi, ce mec-là qui revenait, qui ne parlait pas, qui n'était plus le même, oh, qui était toujours aussi beau, mais non, je n'en voulais pas de ce garçon qui ne parlait plus. J'avais 18 ans, tout juste. Même pas, 17 ans et demi, je voulais vivre. Je voulais vivre et donc je suis partie, je t'ai laissée, et puis après, eh bien je suis devenue une salope. Une salope comme on l'entendait à l'époque. C'est-à-dire je baisais, je jouissais ou je jouissais pas, je baisais, je me faisais avorter, je rebaisais. Une salope, quoi. Et donc quand Jean de Saint-Dié, que j'ai écouté avec beaucoup d'émotion, disait... Ils nous ont abîmés. Oui, ils vous ont abîmés, vous les hommes. Ben, ils nous ont un petit peu abîmés, nous aussi, hein, les femmes. Et vous ne pouvez pas savoir, les filles, aujourd'hui, la chance que vous avez. Vous ne pouvez pas savoir la chance que vous avez de ne pas avoir à pleurer en écoutant les chansons de Boris Vian, de Mouloudji, de d'Yves Montand, toutes les chansons antimilitaristes pendant que vos petits gars sont en train de... crapahuter, de torturer ou de se faire trouver la peau, tout simplement. Alors profitez-en bien, hein, comme dans la chanson de Juliette Gréco. Allez, salut à tous. C'était pour toi, Jean-François, Annette, si tu te souviens. Salut.
Un jour tu verras
l'on se rencontrera quelque part, n'importe où, guidés par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. Puis je t'inviterai, ta taille je prendrai, nous danserons tranquille loin des gens de la ville. Nous danserons l'amour, les yeux au fond des yeux, vers une fin du monde, vers une nuit profonde.
J'ai une mousse qui parlait dans ton micro. J'ai une mousse dans ton micro de Daniel Mermet.
Aux amis poètes, naviguant sur ces ondes, je veux dire merci, merci, merci. Halte à la prosodie qui ici nous inonde. Vive la poésie, vive la poésie. Car en ces temps de crise et de pédagogie, je dis halte aux apothicaires et aux autres médecins qui de la vaseline font l'apologie pour introduire l'austérité dans mon fondement citoyen. Et même si cela ne rime à rien, vive la poésie, vive la poésie. C'était Paula.
J'habite la région des anges, mais je vis avec Lucifer. 30 ans métallos à fleurange alimenter les feux de l'enfer. Une vie passée auprès des fours, à surveiller leur rougeoiement, faire jaillir des étoiles en plein jour, les lancer vers le firmament. Marteau sur enclume, tympan, coulée de lave incandescente, bélier de métal, frappant, coulée des heures rugissantes. Sentir la sueur qui ruisselle sous la combinaison d'argent, la chaleur du fer qui chancelle les fonds en flocons, voltigeant. Ça forge un caractère d'acier, de travailler avec Vulcain. J'ai la dureté d'un cuirassier et l'acharnement d'un requin. Alors quand Mittal nous menace de refroidir nos fourneaux, le feu qui coule sous ma glace bouillonne et jaillit comme de l'eau. La colère souffle sur mes tisons, attise le rouge de ma révolte. Au ministre, je crie « Trahison !» Mes hurlements sont sa récolte. Méfiez-vous des gars de Gandrange, ils sont nés du fer et du feu. Mafalda, slameuse.
Bonjour à tous, moi je regardais les infos ce midi là et je vois des gens qui pleurent parce qu'une usine ferme, enfin, mais je crois qu'il faut arrêter avec ça, enfin moi je suis pas un réac, mais et les gens pleurent, disent on a sacrifié toute notre vie à cette usine, dans des villages, ou dans voilà, on ne sait pas non plus pourquoi elle ferme cette usine, peut-être si on la ferme, c'est qu'on ne peut pas faire autrement, et puis au fond, même plus philosophiquement que ça, il n'y a rien de plus con que de travailler dans une usine, enfin je veux dire, si vous pleurez parce que vous arrêtez de bosser dans votre usine, je sais pas, il y a d'autres choses à faire, on est quand même des êtres aussi actifs, récréatifs, je sais pas, il faut réussir aussi peut-être ses loisirs avant d'essayer de vouloir à tout prix réussir à se lever tôt pour travailler plus, enfin bref, bon bah voilà, mais je comprends pas ce truc systématique qu'il y a avec les gens, avec leur banderole, cégétiste ou pas, d'ailleurs il faut venir pleurer sur les gens qui quittent leur usine, mais putain, mais c'est la fête, au contraire, tu quittes ton usine, tu vas faire autre chose, et tu vas découvrir d'autres choses, et tu vas peut-être t'apercevoir que tu t'es fait chier toute ta vie à bosser dans cette usine, et que la vie est ailleurs, voilà. C'est tout, et je suis pas du tout un réac, hein. Je salue à tous, bonne journée.
Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle, comme d'une bien-aimée, d'une infidèle, une fille bien vivante qui se réveille, à des lendemains qui chantent sous le soleil. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Je voudrais, sans la nommer, lui rendre hommage. jolies fleurs du mois de mai aux fruits sauvages. Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle. Bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle.
Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle Révolution Permanente. On l'appelle Révolution Permanente.
Nous mettrons des robes chinoises pour aller dormir au jardin, dont bleuissent les hauts gradins dans le clair de lune suave. Sur ton flûteau de jade vert, sur mon flûteau de jade rose, pour défier le rossignol, nous lui donnerons un concert. Quand jaillira sa voix divine, vite nous parlerons d'amour. Amis croyants, rien de tel pour rendre les fleurettes attentives. Dans le silence roucoulant, où s'enivre l'âme des roses, nous prendrons en de nobles poses nos éventails de satin blanc. Sous les souffles harmonieux de leur aile vibrante et courte, on verra, sans qu'elle s'en doute, glisser la lune au fond des cieux. Et dans l'obscurité profonde, les papillons de nuit feront voltiger autour de nos fronts leurs rêves de velours et d'ombre. François D.
Allez, utopie, utopie. Allez, là, bon, moi, tout ça.
Bip.
Oui, bonjour, c'est Jacques Pen de la Seine-Maritime. J'ai... Monsieur...
Bonjour, monsieur Mermet. Si on écoute votre émission, ce n'est pas pour entendre la musique rap. C'est plutôt pour que vous parliez des problèmes nationaux. Cet après-midi, depuis 15 heures, on n'entend que de rap. Rap, rap, rap. On a ras-le-bol, hein. On a ras-le-bol.
Allô ? Allô ? Allô, allô ? Allô ?
Arrête de nous juger, qui que tu sois et d'où que tu viennes. Parce que l'on vient d'un quartier où qu'on veut bousculer le règne. Parce qu'on est libre et rebelle, candide mais sur les nerfs. Calme comme le temps ou d'un tempérament nucléaire. Oui, nous sommes l'intrigue aux frontières du réel. Porteur d'un dernier souffle, regarde lorsque la rue se révèle. La mauvaise foi aura un dur réveil. Crois en elle, c'est comme parler de solidarité avec un gars du Medef, ça sert à rien. Ça s'appelle se voiler la face quand l'ignorance se cache derrière son ignorance à part. Il en devient virulent, violent, défenseur de vos rangs, s'accrochant à toutes vos romances, dévorant tout sur son passage. Nous, nous sommes le brassage, l'alliage du cœur et de la rage, de la base et de la marche. Nous, on fait trembler vos palaces. Voici les troublions, on changera le monde que vous le vouliez ou non. Car c'est notre destin que l'histoire nous donnera raison. Écartez-vous si vous êtes trop lâche pour voir la vérité. Laissez passer les esprits libres. Lignée de ceux qui renverseront l'histoire. On ne changera pas le monde si on compte sur les pessimistes. Alors fermez-la maintenant, on en a marre de votre poison. Venez faire péter les cloisons, car c'est l'heure de la moisson. Fermez-la maintenant, bande de propageurs de vibes sombres. Fermez-la maintenant, fermez-la.
À tous les usagers du répondeur. Des usagers, pas si anonymes que cela, ont monopolisé la ligne du répondeur. Cependant, rien n'est perdu. Car dans l'univers libre, des forces immenses n'ont pas encore appelé. Un jour, ces forces déferleront sur le répondeur. Il faut que vous soyez ce jour-là présent. Tel est mon but, mon seul but. Voilà pourquoi je convie tous les usagers, où qu'ils se trouvent, Alsaciens, Auvergnats, Bretons, à s'unir sur le répondeur. Engagez-vous et parlez après le signal sonore.
Voilà, bonjour. Alors, vous allez écouter un message
pour joindre la
caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme. Alors, écoutez.
Pour joindre un conseiller, nous vous invitons à rappeler aujourd'hui de 8h à 9h52, de 10h25 à 11h10, de midi 46 à 14h20, de 14h45 à 15h05, de 15h30 à 15h50 et de 16h30 à 18h et du lundi au vendredi de 8h à 18h. L'assurance maladie vous facilite la vie.
Ouais, merci à l'assurance maladie de nous faciliter la vie. Ciao les AMG.
Salut Daniel. La petite boîte bleue sur le buffet de la cuisine. Ma mère est morte en janvier 2006. Les deux dernières années de sa vie, elle avait de graves problèmes cardiaques. On lui a diagnostiqué une valvulopathie. Les valves du cœur étaient complètement détériorées. Et à l'époque, on ne savait pas pourquoi. La petite boîte bleue sur le buffet de la cuisine. Un an avant sa mort, ma mère a accepté de se faire opérer des valves du cœur. Mais rien n'y a fait. Son état s'est lentement dégradé. Fatigue, souffle au cœur. La petite boîte bleue sur le buffet de la cuisine. Ma mère est morte en janvier 2006. Elle avait 58 ans. La petite boîte bleue sur le buffet de la cuisine. C'était du Mediator. Elle en a pris 3 comprimés par jour pendant 10 ans. L'AFSAPS, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, déclare que, selon une étude de la CNAM, le Mediator aurait causé entre 500 et 1000 morts. Cette même agence, l'AFSAPS, a attendu le 30 novembre 2009 pour retirer le Mediator du marché en France, alors que les effets nocifs de la molécule sur les valves cardiaques sont connus depuis 1997.
Les mains transfigurées qui règlent la tzigane. Baudelaire et Shakespeare au chevet des profanes. Les chevaux condamnés et leur dernière avoine. La voix pour commander à 1000 couturières. Un lit avec le Parthénon comme litière. Le catéchisme de la joie, la vie entière. Le ruisseau qui jouit jusqu'au Havre, son trêve. Le malheureux, le chien qui meurt, l'homme qui crève. Le sang des femmes qui sont mortes sans un rêve. L'orgue de la nature au souffle de violette. Les rendez-vous mystérieux sur la voilette. Le numéro que tu voulais à la roulette. Et puis le majuscule ennui qui nous sclérose, mon pauvre amour, car nous pensons les mêmes choses, en attendant que l'ange nous métamorphose. Léo Ferré, à toi.
Prochainement, sur le répondeur de là-bas si j'y suis, Claude, le retour. Etc, etc, parce qu'il n'a pas les crédits pour passer toute la musique.
La trapéziste. La trapéziste s'enfilait, afin de s'envoyer en l'air, s'enfilait toutes sortes d'objets que lui lançait son partenaire. Devant le public ébahi, elle s'introduisait chaque soir de ses talentueuses amies du cirque tous les accessoires. Le fouet du dresseur de fauves, un manche du lanceur de couteaux, la masse, et c'est pas de la guimauve, d'un des monteurs du chapiteau. La hache du pompier de service, le bâton du cracheur de feu, la selle d'un motocycliste, le nez rouge d'un clown malheureux. La baguette du chef d'orchestre, qui se prend chaque soir pour Karajan, mais qui réchausse des pieds terrestres quand il accroche sa caravane. Le bout de la queue d'un dromadaire, deux haltères d'un jongleur tchétchène, l'une par devant, l'autre par derrière, n'en jetez plus, la croupe est pleine. Un triste soir à Montaigu, pour se réjouir le vestibule, elle prit, quelle idée saugrenue, le balancier du funambule. À la suite d'un faux mouvement dû au balancement du trapèze, il entra si profondément qu'il l'embrocha comme une merguez. Sa mort ne fut pas anodine. Par un malencontreux hasard, elle tomba sur un trampoline qui la renvoya d'art d'art. Après 17 allers-retours sous les ovations du public, croyant à un morceau de bravoure, elle s'écrasa comme un moustique. Portée comme, et c'est bien triste, un lion tué par les chasseurs, elle fit son dernier tour de piste sur les épaules de deux consoeurs. Elle a eu des hauts et des bas, dit le curé devant sa sépulture, mais le bon Dieu le décida, mourut de plaisir dans la sciure. C'était Jean-Jean le rimailleur, le gars qui rimaille à toute heure. Salut!
Je vais avoir le plaisir de vous chanter Le Trou de mon quai, petite chansonnette métropolitaine. Demeure dans une maison tout près de la Seine, où l'on fait depuis 3 semaines des fouilleuses et des travaux pour faire passer le métro. De ma fenêtre, tout en fumant des pipes, je regarde les équipes dont les hommes sont occupés à faire un trou dans mon quai. Et si vous voulez mon adresse, c'est pas difficile à trouver. Afin que chacun la connaisse, en 2 mots je vais vous renseigner. Il y a un quai dans ma rue, il y a un trou dans mon quai. Vous pourrez donc contempler le quai de ma rue et le trou de mon quai. Mais hélas, ici-bas la joie n'est qu'un leurre. Et l'on m'a dit tout à l'heure que les travaux de terrassement vont se terminer prochainement. Pas drôle pour moi qu'on avait l'habitude, et ça va me paraître rude quand le dernier coup de pelle donné, le trou de mon quai sera bouché. Adieu joie des rêveries nocturnes, adieu journée d'activité. Comme autrefois seul dans ma turne, je n'aurais plus hélas qu'à chanter. Il y a un quai dans ma rue, mais il n'y a plus de trou dans mon quai. Je n'ai donc pour me consoler que la vue du quai de ma rue, mais j'ai plus de trou de mon quai. Ah, oh, c'est malheureux tout de même.
Bonjour Daniel, tous les amis. Voilà, j'ai l'impression que ça manque de musique dans ton émission. Ça manque de zizik. Il va falloir faire un effort. Allez, salut.
Est-ce qu'on peut dire la prison? Est-ce qu'on peut dire le silence? Est-ce qu'on peut dire les larmes lentes et secrètes après l'extinction des feux? Est-ce qu'on peut dire l'amitié des voyous et des assassins, des voleurs? Est-ce qu'on peut dire la détresse, la fierté, la superbe des vieux caïds enfermés qui répètent inlassablement la litanie de leurs exploits passés, ou qui n'en parlent jamais? Est-ce qu'on peut dire l'attente et le temps? Est-ce qu'on peut dire le claquement quotidien des barres de fer sur les barreaux? Est-ce qu'on peut dire les femmes qu'on regarde du fourgon cellulaire et qui tordent le plexus de douceur, de douleur? Est-ce qu'on peut dire les revues porno, je veux pas oublier comment s'est fait le sexe d'une femme? Est-ce qu'on peut dire l'humiliation de se masturber? Est-ce qu'on peut dire la terreur de l'absence progressive de désir, d'érection? Est-ce qu'on peut dire les avocates, bonjour maître, elle a un sexe sous sa robe? Est-ce qu'on peut dire les durs qui reviennent du parloir brisé, éteint, silencieux, parce que leur femme ne viendra plus? Est-ce qu'on peut dire les portes des cellules qui retentissent la nuit sous les coups furieux d'un détenu affolé qui n'en peut plus? Est-ce qu'on peut dire les pendaisons? Est-ce qu'on peut dire, il y en a un qui s'est accroché, il est mort en déchargeant? Est-ce qu'on peut dire les promenades? Est-ce qu'on peut dire les dimanches et les jours de fête? Pas de courrier, pas d'avocat, pas de parloir, rien. Est-ce qu'on peut dire les matons, la haine et la sympathie, le mépris, l'estime, la méfiance? Est-ce qu'on peut dire, chef, ça va pas en ce moment, je deviens fou? Est-ce qu'on peut dire la mère chaleur et la chair de poule de ces misérables dialogues qui consolent le soir au moment de la fermeture des portes? Est-ce qu'on peut dire la saveur insipide de toute nourriture, y compris celle qui vient du colis annuel? Est-ce qu'on peut dire la prison? Des souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France de Pierre Goldman, édition de poche, 1977.
Zozo le bûcheron. Oh là 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 là. Formidable aujourd'hui dans la forêt. Il y a un petit rouge-gorge qui m'a accompagné. Hein. La rivière, pas loin, qui charrie les blocs de glace. Qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce qu'on est bien. Le paradis. Le paradis. Le paradis. Le luxe. C'est pas Place Vendôme, le luxe. Le luxe, c'est ici. Ici. Youpi.
Spécial répondeur aujourd'hui, spécial poète du répondeur et poétesse aussi. On s'est aperçu que le répondeur est le dernier refuge des rimailleurs et des amateurs de mots taillés en forme de flèche, en forme de cœur, en forme de colère, en forme de divan profond comme des tombeaux.
Citroën. Je vis sous les étoiles, la nuit, le jour exactement. Il y a comme du vent dans les voiles, je me dis c'est rien, le bien, ça va, ça vient. On est pas mal sur mon parking, la lumière reste allumée tout le temps. Je fume des clopes en écoutant le King, à 2h les flics font leur tournée. Au petit-déj, j'écoute France Inter. Au demeurant, les nouvelles peuvent me concerner. La courbe du chômage, l'augmentation de la bière. À part une grève à Lidl, plus rien peut m'arriver. Je continue à me laver, à changer de chaussettes. J'ai même prévu 200 CV. Toute la journée, j'écris des lettres que je vais distribuer à pied. Quand j'étais quelqu'un, j'avais un chien. Je ne l'ai pas gardé dans ma Citroën. Ici, il n'y a plus de place pour rien. Le reste de ma vie, il est resté chez ma petite reine. Maintenant, mes amis sont différents tous les soirs. Des routiers, des gitans, des putes. En voiture, en camion, tous avec une drôle d'histoire. Sur un coin de parking, sans fric, sans goût, sans lutte. On m'aurait demandé avant le plus dur à larguer. J'aurais dit mon iPhone, ma dignité, ma femme. Mais le pire, en fait, c'est de dormir habillé et d'avoir à poser ma merde dans des coins infâmes. Je me souviens, j'ai chanté Daran à Cabourg, dans la tête des images de bonheur, de vacances. Maintenant, ce que je sais de l'intérieur, j'aimerais ne pas dormir dehors. Je vis le jour, la nuit, exactement, sous les étoiles. Il y a comme du vent dans les voiles. Je me dis, c'est rien. Le bien, ça va, ça vient. C'était Marilyn Mars.
Il m'aura fallu faucher les blés, apprendre à manier la fourche, pour retrouver le vrai, faire table rase du passé. La discorde qu'on a semée à la surface des regrets n'a pas pris. Le souffle coupé, la gorge irritée, je m'époumonais sans broncher. Angora, montre-moi d'où vient la vie, où vont les vaisseaux maudits. Angora, sois la soie, sois encore moi. Les pluies acides décharnent les sapins. J'y peux rien, j'y peux rien. Coule la résine, s'agglutine le venin. Je crains plus la mandragore, je crains plus mon destin. Je crains plus rien. Le souffle coupé, la gorge irritée, je m'époumonais sans broncher. Angora, montre-moi d'où vient la vie, où vont les vaisseaux maudits. Angora, sois la soie, sois encore à moi.
Comment font-ils ceux qui ne partagent pas mes calculs? Calme, luxe et volupté, ceux qui restent dans leur bulle. Comment font-ils ces assis dans la vie pour avoir peur des baobabs?
Quel est le premier objet de la société?
c'est de maintenir les droits imprescriptibles de l'homme. Quel est le premier de ces droits ? Celui d'exister. La première loi sociale est donc celle qui garantit à tous les membres de la société les moyens d'exister. Toutes les autres sont subordonnées à celle-là. La propriété n'a été instituée ou garantie que pour la cimenter. Les aliments nécessaires à l'homme sont aussi sacrés que la vie elle-même. Tout ce qui est indispensable à la conserver est une propriété commune à la société entière. Il n'y a que l'excédent qui soit une propriété individuelle et qui soit abandonné à l'industrie des commerçants. Toute spéculation mercantile que je fais aux dépens de la vie de mon ensemblable n'est point un trafic, c'est un brigandage, un fratricide. La liberté du commerce est nécessaire jusqu'au point où la cupidité homicide commence à en abuser. Maximilien de Robespierre. Monsieur Juppé, vous feriez bien de la lire.
Celui qui consent sa soumission, l'aliéné loyal envers son maître, l'esclave participant à son asservissement, le soldat défendant corps et âme, le tyran maintenant son genou à terre, celui-là n'a que deux choix, se révolter ou périr. Vivons nos vies.
J'ai souvent pensé, c'est loin la vieillesse, mais tout doucement la vieillesse vient, petit à petit, par délicatesse, pour ne pas froisser le vieux musicien. Si je suis trompé par sa politesse, si je crois parfois qu'elle est encore loin, je voudrais surtout qu'avant m'apparaisse ce dont je rêvais quand j'étais gamin. Ah, qu'il vienne au moins le temps des cerises avant de claquer sur mon tambourin, avant que j'ai dû boucler mes valises et qu'on m'ait poussé dans le dernier train. Bien sûr, on dira que c'est des sottises, que mon utopie n'est plus de saison, que d'autres ont chanté le temps des cerises, mais qu'ils ont depuis changé d'opinion. Moi, si j'ai connu des années funestes et mes cerisiers des printemps pourris, je n'ai pas voulu retourner ma veste ni me résigner comme un homme aigri. À qu'il vienne au moins le temps des cerises avant de claquer sur mon tambourin, avant que j'ai dû boucler mes valises et qu'on m'ait poussé dans le dernier train.
Bravo, vous êtes excellent, amis auditeurs. Les oreilles prennent la parole. C'était une émission récente avec, vous avez compris, les messages que vous avez laissés dans le répondeur de là-bas si j'y suis, dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis ces derniers temps. Continuez encore quelques jours, on s'arrête vendredi. Et en principe, l'émission reprend à la rentrée. Demain, on retrouvera probablement l'équipe du Monde Diplomatique. Et puis vendredi, donc on évoquera les drones avec Grégoire Chamaillou. Un sujet très important, les drones, parce qu'ils sont présentés actuellement comme des gadgets amusants, une révolution comme ça technologique. Mais évidemment, sous l'angle militaire, sous l'angle de la violence, les drones posent une quantité de problèmes que ce jeune philosophe analyse d'une façon tout à fait inquiétante et mobilisatrice aussi. On en parlera donc probablement vendredi. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique « Programme émission là-bas si j'y suis ». Vous pouvez réécouter cette émission sur labas.org, la-bas.org. Il y a aussi la page Facebook de Labas si j'y suis. Je vous signale le numéro de Politis, puisqu'il va être question de Mandela, c'est dans les minutes ou heures qui viennent en tout cas. Un très beau numéro, une très belle analyse de Denis Sifer sur Mandela. Et puis le papier, je vous l'ai comme promis, d'Alain Grèce de juillet 2010. Embaumement médiatique, amnésie politique, l'évangile selon Mandela. Merci à tous, à la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Alexandre Abergel. Lucie Hacoun et Chloé Sanchez ont réalisé cette émission assistée de Grégory Salomonovitch et Marion Dupas. Attendent dès à présent vos messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Veuillez patienter. Votre correspondant va vous reprendre dans quelques instants.
Allô ? Allô, allô ? Allô ?
France Inter, partenaire de l'exposition Bruno Réquillart, Poétique des formes, actuellement au château de Tours. L'exposition propose un regard rétrospectif sur l'œuvre passée de Bruno Réquillart et dévoile, pour la première fois, un travail qui explore le quotidien et le paysage avec une grande curiosité visuelle. Plus de 130 photographies pour comprendre un itinéraire artistique d'une richesse poétique peu ordinaire. Retrouvez l'exposition Bruno Réquillart, Poétique des formes, dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter, partenaire du week-end exceptionnel, l'ethnologie va vous surprendre. L'ethnologie est en fête au musée du Quai Branly, les 29 et 30 juin. Visites inédites de ses collections, ateliers jeunes publics, lectures par des personnalités, conférences, enquêtes de terrain, projections. Deux journées en accès libre et gratuit pour se laisser surprendre et explorer le 21e siècle. Retrouvez l'événement « L'ethnologie va vous surprendre » dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
À demain, 15h, sur Inter, pour la base si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Deux auditions cet après-midi, celle actuellement de Dominique Strauss-Kahn par la commission d'enquête sénatoriale sur le rôle des banques et des acteurs financiers dans la fraude fiscale. D'entrée de jeu, l'ancien patron du FMI a ironisé sur ceux qui s'en prennent à la finance. Le système fonctionne mal, dit-il, mais incriminer la finance dans le désastre économique que nous vivons en Europe et en France a pour moi la même pertinence qu'incriminer l'industrie automobile quand on parle des morts sur la route. L'autre audition, c'est celle dans une demi-heure de Jérôme Cahuzac devant cette fois la commission d'enquête parlementaire après ses aveux sur l'existence d'un compte en Suisse. Les députés cherchent à savoir s'il y a eu dysfonctionnement au sommet de l'État. En gros, si l'État était au courant. On attend en Afrique du Sud l'intervention télévisée de Jacob Zuma. Selon les médias sud-africains, le président devrait s'exprimer dans l'après-midi. L'Afrique du Sud est suspendue depuis maintenant 19 jours au bulletin de santé de Nelson Mandela. Le héros de la lutte contre l'apartheid est hospitalisé à Pretoria pour une infection pulmonaire. Le jugement a été rendu cet après-midi par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains dans la collision d'Allinges en 2008. Le chauffeur du car a été condamné à 2 ans de prison avec sursis, la SNCF à 200 000 euros d'amende et Réseau Ferré de France à 400 000 euros. Les deux sociétés ont été condamnées pour ne pas avoir détecté la dangerosité du passage à niveau. 5 millions d'euros de dommages et intérêts ont aussi été accordés aux victimes. Cette somme en fait sera à la charge de la SNCF, de RFF et de l'employeur du chauffeur de car pour les 232 parties civiles du procès. Cette collégiale sont morts dans la collision de leur car avec un TER à un passage à niveau. Le procès de l'enseignant soupçonné d'avoir voulu extorquer de l'argent à des parents pour éviter à leur fils d'être exclu de l'établissement s'est ouvert aujourd'hui devant le tribunal correctionnel d'Avesnes-sur-Helpe dans le Nord. Il risque jusqu'à 7 ans de prison. Ziad Takieddine, qui a avoué au juge avoir participé au financement occulte de la campagne d'Edouard Balladur en 1995 via des rétrocommissions, sera confronté à Thierry Gobert et Nicolas Bazir la semaine prochaine. L'homme d'affaires franco-libanais les a directement mis en cause lors de ses déclarations devant les juges. Thierry Gobert était un proche de Nicolas Sarkozy qui s'était rangé aux côtés d'Edouard Balladur en 1995. Nicolas Bazir, lui, n'était autre que le directeur de campagne de Premier ministre de l'époque. Des explosifs ont été retrouvés ce matin dans une cage d'ascenseur d'un HLM de Sevran, en Seine-Saint-Denis, 2 pains de 100 grammes chacun. Plusieurs centaines de salariés de Michelin ont défilé aujourd'hui dans les rues de Clermont-Ferrand, le jour où se tient un CCE du fabricant de pneus. Ils ont dénoncé le nouveau plan de restructuration. 730 emplois vont être supprimés sur le site de Jouy-les-Tours, en Indre-et-Loire. Enfin, Lens jouera la saison prochaine en National, l'équivalent de la 3e division dans le foot. La décision de la DNCG confirme en fait les informations parues dans l'équipe. C'est une procédure normale, explique pour sa part le club aujourd'hui. Le RC Lens n'a pas encore été racheté par Gervais Martel et Hafiz Mamadov, un homme d'affaires azerbaïdjanais. La direction des 100 et or a donc décidé de faire appel de la décision de la DNCG. Vous écoutez France Inter, il est 16h03.
À l'occasion de la création du prix du premier album francophone, France Inter et Télérama vous proposent de devenir membre du jury de cette première édition. Les 10 artistes sélectionnés sont La Femme, Gaël Faye, Granville, Lescope, Lisa Leblanc, Messia, Sophie Morin, Otilibé, Roby, 1995. Si vous voulez participer au jury, écrivez-nous à prixdupremieralbum@radiofrance.com. Date limite d'inscription, le 12 juillet. La remise du prix France Inter Télérama sera retransmise lors d'une soirée spéciale sur France Inter. Tout au long de l'été, retrouvez les finalistes en écoute sur franceinter.fr.
France Inter, la voix est libre.
Allez, bonjour Frédéric Lodéon, c'est à vous.
Eh bien, merci Laetitia Gaillet, on vous retrouve au plus tard à 17h.
Voilà, tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, j'ai le très grand honneur et le grand bonheur de recevoir aujourd'hui Christiane Hédapierre, cantatrice, soprano. Bonjour Christiane.
Bonjour Frédéric.
On va pas dire madame quand même parce qu'on se connaît depuis trop longtemps.
Connaissons.
Et puis des origines communes, la Martinique, parce que vous êtes née à Fort-de-France et vous avez commencé des études de piano et de théorie avec votre propre maman qui était professeure d'éducation musicale au lycée Schœlcher. Vous êtes arrivée à Paris en 1950, vous avez travaillé avec le ténor Jean Planel, ensuite vous êtes allée voir Charles Panzera, pas mal d'autres grands professeurs, et puis le Conservatoire de Paris en 1954, des prix à unanimité, et une carrière qui a été absolument extraordinaire, invitée partout, invitée dans les plus grands théâtres du monde, des opéras et une reconnaissance de tous les chefs d'orchestre, du public aussi, pour votre voix tellement claire, tellement nette, et je dirais que quand vous chantez, vous ne faites pas semblant, vous allez toujours au bout de la phrase, il n'y a pas de déguisement, vous ne cachez pas de faiblesse, on entend ça dans les enregistrements qui sortent ces jours-ci chez Decca. Donc ce sont des airs d'opéra comique de Grétry et Philidor. Il y a aussi Rameau, Mozart, Berlioz, Stravinsky, Honegger. C'est une sorte de livre de voyage que vous nous livrez là.
Oui, c'est toutes les musiques que j'aime. Et puis je n'ai jamais voulu m'enfermer, si vous voulez, dans une catégorie de compositeurs. Oui. Ou même, par exemple, dans le 18e siècle, le 17e, le 19e. J'aime bien un peu voyager. C'est mon esprit un peu curieux.
Alors aujourd'hui, en plus, c'est le centenaire de la naissance d'Aimé Césaire.
Aimé Césaire.
Autre grand Martiniquais.
Oui.
Alors on pense bien à lui, parce que ça a été aussi un maître de la langue. Et pour vous, la langue française est très importante.
La langue française est très, très, très importante pour moi. Et, surtout, et pour les Antillais aussi.
Nous oui, sommes en général.
Nous sommes de grands parleurs.
Et vous avez toujours enseigné à vos disciples de commencer par les œuvres françaises, disant que comme c'est difficile, le français chanté, ben après ça, on peut tout faire.
Quand on sait bien chanter. Oui, j'en suis persuadée. Et puis je crois que c'est notre rôle aussi de faire connaître la musique française.
Eh oui, alors on va commencer tout de suite. Alors, ce n'est pas la musique française immédiatement, mais non. On va y venir très rapidement. Mais c'est un petit clin d'œil au temps qu'il fait. C'est de Mozart, un air qui dit « Déjà, le joli printemps rit ». Eh bien, nous aussi, on rit un peu.
Certo,
Silencio!